Voilà, donc la parole est maintenant à Frère Vive.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous voyez que nous sommes avec McIntyre en pleine actualité avec la difficulté de
Il y avait des
se
hommes
mettre
qui
d'accord dans les débats politiques, en tout cas à partir d'arguments rationnels. Donc, c'est un peu de la pagaille. En tout cas, c'est la pagaille dans les transports. Et c'était difficile donc de vous rejoindre à temps et veuillez m'en excuser. Donc, sans perdre davantage de temps, nous continuons notre lecture de l'ouvrage d'Alasdair MacIntyre, Après la vertu, étude de théorie morale. Nous nous souvenons que MacIntyre constatait l'impasse du débat éthique, du débat moral. Aujourd'hui, il est incapable d'aboutir à un consensus fondé en raison. Et dans cette situation, il souligne l'intérêt d'une tradition à laquelle il veut revenir, une tradition rejetée et oubliée, tradition qu'il appelle tradition classique, qui se caractérise en particulier par le fait que l'individu y est inséré dans une communauté. De cette tradition, Aristote est le premier représentant. Il occupe une place tout à fait privilégiée dans cette tradition qu'il s'agit de redécouvrir. En particulier dans la pensée d'Aristote, il y a un ordre qui fut plus tard inversé entre la considération des vertus, la considération des vertus des personnes et la considération des règles qui régissent la vie communautaire. Chez Aristote, en effet, rappelle MacIntyre, on passe de la considération de la vertu pour passer à celle des règles, des lois qui régissent la vie communautaire. Mais de cette éthique d'Aristote, détaillons, en rappelant ce que nous avons déjà vu la fois passée, un certain nombre de thèmes importants. Si l'éthique d'Aristote est liée à un cadre politique particulier, à savoir la cité-État, telle qu'elle existait à Athènes, elle s'appuie cependant, par ailleurs, sur une certaine conception générale de la nature humaine. La nature humaine, dans la perspective d'Aristote, est tendue vers cette fin qu'est le bonheur. Le bonheur, selon Aristote, c'est pour la personne humaine être bien en faisant le bien. Et la vertu est la qualité qui nous rend aptes au bonheur. La vertu est une composante de cette vie bonne, heureuse, bienfaisante. En quoi consiste le bonheur? La vertu est capacité de choisir le bien et inclination au bien. Elle est, la vertu, ce par quoi l'être humain pense, sent, fait le bien, veut en accord avec ce qui est réellement son bien en tant qu'homme et en tant que membre de la cité. La vertu nous accorde à un bien objectif et on voit qu'on est aux antipodes de ce que MacIntyre, si vous vous en souvenez, appelait l'émotivisme moral ou la position, l'affirmation morale masquait une préférence subjective qui s'imposait non plus dans l'argumentation, mais d'une manière ou d'une autre sous le mode de la manipulation. Cette capacité de discerner le bien, d'adhérer au bien et de faire le bien, qui est la vertu, elle s'exerce dans les circonstances particulières qui sont celles de mon existence. Il y a des règles universelles et naturelles du comportement vertueux, mais l'homme est toujours inséré dans une communauté particulière qui se caractérise par une visée commune d'un bien commun, du bien commun, qui est le bien de cette communauté. Et chaque communauté, en fonction du bien commun qui est le sien, produit une table des vertus, c'est-à-dire une liste des vertus énoncées selon un certain ordre. Par ailleurs, puisque tous ne sont pas vertueux ou le sont inégalement, il y a des actions qui altèrent le lien communautaire. Ces actions, elles sont donc exclues et sanctionnées par la communauté. La communauté ne produit pas seulement une table des vertus, une liste ordonnée des vertus, mais elle émet aussi des proscriptions et des sanctions. Il y a donc, dans la perspective éthique d'Aristote, un consensus communautaire sur la table des vertus, d'une part, et par ailleurs sur une liste graduelle des délits qui sont sanctionnés proportionnellement aux dommages commis à l'égard de la communauté. Parmi les vertus, il en est trois que je rappelle. Tout cela, nous l'avons vu la fois passée déjà. Tout d'abord, la vertu de justice, en fonction de laquelle nous rendons, dans une communauté donnée, à chacun ce qu'il mérite. C'est donc la vertu de justice qui rend aussi apte à définir les lois qui conviennent et qui rend apte par ailleurs à les appliquer de manière équitable. Cette application équitable de la loi demande par ailleurs une autre vertu, la vertu de sagesse pratique, de discernement, ce qu'on appelle en latin la vertu de prudence ou en grec la vertu dite de phronesis, qui est une vertu intellectuelle, c'est-à-dire qui est le produit d'une éducation. Vertu de sagesse pratique que supposent les vertus du caractère qui sont, elles, le fruit d'un exercice concret. Il y a donc un lien entre la sagesse pratique et les vertus du caractère. Les vertus du caractère n'existent pas sans la sagesse pratique qui permet de discerner le juste milieu dans l'application des principes moraux. Et par ailleurs, la sagesse pratique, la phronésis, est altérée dans le sujet humain lorsqu'il y a chez lui des défauts de caractère. Ce qu'on voit de cette manière, c'est la conciliation qu'il y a chez Aristote entre le raisonnement et l'agir. On le voit avec la corrélation entre phronésis et puis vertu du caractère, et en particulier la vertu de justice. Et puis, par ailleurs, selon Aristote, et cela le différencie de beaucoup de philosophes modernes et contemporains, le raisonnement pratique aboutit non pas à une conclusion théorique, mais il aboutit à l'agir. Il n'y a pas de sagesse pratique réelle qui n'aboutisse à une prise de décision et un engagement concret conforme à la prise de décision. J'ai parlé donc de la vertu de justice, j'ai parlé de la vertu de sagesse pratique, la phronesis. Mentionnons encore la vertu d'amitié, qui est ce lien qui existe entre les membres d'une communauté donnée. L'amitié est elle-même une vertu. Elle est aussi un sentiment découlant de cette vertu qui lie les uns aux autres, les membres d'une même communauté partageant une même inclination vers un bien commun. En conclusion, McIntyre soulignait ce qui lui apparaissait comme deux limites de l'éthique aristotélicienne, le fait qu'en soit exclue des catégories humaines, comme ceux qui n'appartiennent pas à la cité, les barbares, ou au sein même de la cité, les esclaves, et par ailleurs, le fait que l'idéal aristotélicien est celui d'une harmonie entre citoyens et qu'elle permet difficilement de penser la manière d'affronter les conflits et de les gérer. Peut-être que la municipalité à Paris est trop aristotélicienne pour avancer assez vite dans les conflits qui nous gênent aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, j'ai voulu rappeler, avant d'aborder notre sujet, les points que nous avons vus les fois passées, c'est-à-dire la condition du débat moral aujourd'hui et la caractérisation de l'éthique d'Aristote. J'avais annoncé que aujourd'hui nous allions travailler sur la manière de penser aujourd'hui le débat moral à la lumière de cette tradition dont Aristote est le premier représentant selon McIntyre. Et puis, relisant le chapitre 13 qui est consacré au Moyen Âge, je me suis dit qu'il était vraiment intéressant d'y consacrer une séance parce que McIntyre montre comment le Moyen Âge a lu Aristote, a usé d'Aristote, tout en se différenciant de lui. Et dans le contexte de notre association, où Aristote et Thomas d'Aquin sont deux références privilégiées dans notre réflexion, ça me semblait particulièrement intéressant de réfléchir au lien entre Aristote et ses interprètes chrétiens, parmi lesquels se distingue au XIIIe siècle Thomas d'Aquin. McIntyre donc souligne la nécessité qu'il y a de revenir à une conception qu'il a dite classique de la morale, en deçà des transformations de la modernité qui rendent aujourd'hui difficile, voire insoluble, le débat en morale ou en éthique. Cette tradition, commence-t-il par dire, dans le texte qui a été mis à votre disposition sur la plateforme, elle a toujours été en dialogue avec Aristote, plutôt que en simple assentiment. Elle l'a toujours discuté et tout en le recevant, tout en le respectant, il est le philosophe par excellence, elle lui a porté non seulement certains compléments, mais même sur certains points, certains amendements. La question du Moyen Âge, elle va être pour le chrétien de se rattacher avec la foi qui est la sienne aux formes de vie quotidienne, sociale de son temps. On pourrait peut-être dire, ce n'est pas le terme dont use McIntyre, ce sera le mien, que le problème du chrétien, c'est celui de l'inculturation de sa foi à chaque génération. dans des conditions qui sont toujours nouvelles. Au début du XIVe siècle, un peu après donc Saint Thomas d'Aquin, le problème s'énonce de la façon suivante. Comment relier dans la pratique les quatre vertus cardinales dont parlaient les philosophes, c'est-à-dire la justice, la tempérance, la force et la prudence, aux vertus théologales révélées dans l'Évangile, que sont la foi, l'espérance, la charité. Le vocabulaire, effectivement, est fixé un peu après Thomas. Thomas ne parle pas de vertu théologale, il parle de vertu théologique, mais n'entrons pas dans ces considérations très, très historiques, très philologiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir présenter de façon simple quel est le problème, comment les vertus sociales, je dirais, peuvent être animées, associées, harmonisées avec les exigences spécifiques de l'Évangile que sont la foi, l'espérance et la charité. Donc le grand problème du Moyen Âge, c'est de vivre chrétiennement, mais dans une culture donnée, dans une organisation politique donnée. Et pour résoudre ce problème, Aristote est un auteur privilégié, soit que l'on rejette avec virulence, ce sera encore le cas de Luther au XVIe siècle, soit que l'on adopte comme un maître incomparable dans son domaine propre, qui est celui de la philosophie, et c'est le cas bien sûr de Thomas d'Aquin. Un peu avant Thomas d'Aquin, un maître comme Pierre Abélard, au début du XIIe siècle, se situe plutôt dans la lignée de ceux qui rejettent ce qu'il connaît de la philosophie ancienne, de la philosophie grecque. À cette époque, au début du XIIe siècle, on connaît très peu de choses d'Aristote. En particulier, on n'a pas les latins non plus, le grand ouvrage de morale d'Aristote, qui est l'Éthique à Nicomaque. Mais on a bien sûr, par d'autres biais que les textes même d'Aristote, accès à une partie de l'héritage ancien et grec en matière de morale. Abélard, au nom même de sa foi chrétienne, insiste sur la liberté de l'homme, sur la possibilité qu'a la volonté humaine de suivre ou de repousser les inclinations des vertus et des vices. Et c'est ce en quoi il prend des distances par rapport à l'héritage grec et païen, c'est-à-dire à une éthique des vertus et des vices. Il insiste sur le fait que, quelles que soient les vertus de caractère du sujet humain, il lui est toujours possible de suivre ou de repousser ses inclinations qui sont celles de son caractère. Il insiste donc sur l'intériorité humaine, sur un certain primat de la volonté au nom de la liberté du sujet. Et il y a là chez lui un double héritage, un héritage biblique, bien sûr. La Bible affirme la liberté de l'homme et la Bible révèle une loi à laquelle l'homme est invité à être fidèle, mais par ailleurs aussi un héritage ancien, grec lui aussi, qui est l'héritage stoïcien. Et les pages que MacIntyre consacre à la morale stoïcienne, deux pages dans le texte que je vous ai laissé, sont très éclairantes, non seulement pour ce qui nous apprend de la morale ancienne des stoïciens, mais aussi pour la manière dont il caractérise une attitude morale qui est résurgente dans l'histoire de la philosophie et qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Comment se caractérise la position stoïcienne en morale. Pour les stoïciens, on ne parle pas de vertu au pluriel, mais on parle de la vertu au singulier. Je vous rappelle que le titre de l'ouvrage de Marquis-Tailleur, c'est Après la vertu. Certains courants modernes et contemporains ont ceci de commun avec le stoïcisme, qu'on parlera de la vertu au singulier et non plus des vertus au pluriel, comme le faisait Aristote. La vertu, l'arete en grec, qui est le propre de l'homme bon ou équivalemment de l'homme sage, c'est ce qui l'harmonise à la loi du cosmos. Les actions de l'homme vertueux ne sont pas nécessairement des réussites. Elles ne lui procurent pas nécessairement le plaisir, le bonheur, le succès social. Seule la bonté de la volonté est un bien inconditionnel. Il y a dans la perspective stoïcienne de cette manière l'abandon de toute perspective d'une finalité à obtenir. Le critère de la morale, c'est un ordre cosmique, une loi incarnée dans la nature même à laquelle il s'agit de se conformer. Et la conformité à cette loi, c'est la vertu. C'est ce qui fait l'homme sage et vertueux. Une loi qui n'a rien à voir avec les circonstances, en particulier les circonstances politiques, l'homme bon n'est pas bon à partir de sa manière de s'insérer dans une communauté locale, il est citoyen du monde. La morale stoïcienne est une morale cosmopolite. Il s'agit pour l'homme bon, l'homme sage, de vivre de la vie divine, de servir non pas ses intérêts privés, mais les intentions qui sont celles de l'ordre divin. Eh bien, le stoïcisme sert de modèle, écrit Marquis-Tailleur, à toutes les morales occidentales qui ont accordé une place centrale à la notion de loi en détrônant les vertus. Nous savons que Marquis-Tailleur insiste beaucoup sur l'ordre moral, soit de la vertu aux lois, c'est de la loi aux vertus, et dans le cas du stoïcisme, on a d'abord une considération de la loi, loi du cosmos, à partir de laquelle on pense la vertu, qui est celle de l'homme bon, de l'homme sage. Alors que chez Aristote, les choses étaient pensées à partir d'une communauté qui était tournée vers un bien partagé. Et cette communauté tournée vers un bien partagé appelle à la contribution de ses membres. Elle produit une table des vertus et une législation en conformité avec le bien commun qu'elle vise. Si cette forme de communauté, telle que la pense Aristote, et qui correspond dans l'expérience même d'Aristote à ce qu'était la cité athénienne, disparaît, et de fait elle a disparu au moment d'abord de l'avènement du royaume de Macédoine avec Philippe Alexandre, puis ensuite avec, dans le contexte de l'Empire romain, si cette forme de communauté qu'est la communauté, la cité où a vécu Aristote disparaît, alors toute relation intelligible ou lien entre les vertus d'une part et les lois d'autre part disparaît. Parce que il n'y a plus aucun bien par-delà la loi et ce qu'énonce la loi. Donc, peut dire qu'une des sources d'Abélard, insistant sur la seule bonté de la volonté, toujours autonome, plus ou moins facilement, mais toujours autonome par rapport au caractère du sujet, une des sources de Pierre Abélard, au début du XIIe siècle, est le stoïcisme. Et par ailleurs, je l'ai déjà dit, c'est la révélation elle-même, où une loi nous est révélée, où Jésus lui-même, le Messie, est dispensateur de la loi, il accomplit celle de Moïse et il apporte la sienne propre. Et on pense donc la morale comme conformité à cette loi. Mais pour les contemporains d'Abélard et les générations suivantes au Moyen Âge, il y avait le projet de créer un ordre institutionnel, une culture, une société où les exigences de la loi divine seraient plus facilement écoutées et respectées. On ne s'en est pas tenu à la position d'Abélard, au primat de la loi, et à l'insistance sur l'adhésion de la volonté à la loi, mais on s'est donné comme projet de bâtir une cité, d'édifier une culture, une civilisation, où seraient plus facilement écoutées et respectées les exigences révélées de la loi divine. Et c'est pourquoi d'autres héritages que l'héritage stoïcien légué par les anciens ont été sollicités, déjà chez les auteurs à la fin du XIIe siècle, dans la génération qui a suivi Pierre Abélard, comme Alain Delisle. Disons quelques mots de ce contexte médiéval. C'est un contexte, dit McIntyre, en perpétuelle tension entre des exigences différentes, en perpétuelle tension entre la prétention à l'universalité qui était celle de l'Église et d'autre part les tensions et prétentions particularistes des communautés locales qui menaçaient de tout absorber dans la coutume et le pouvoir local. Sans cesse s'affrontaient au Moyen Âge la loyauté due aux autorités et les exigences de la justice. Société donc en tension, en conflit, où les vertus sont pensées par les maîtres et redéfinies par rapport à cette situation qui est celle d'une tension, d'un conflit à résorber. Un exemple célèbre présenté par McIntyre est le conflit à la fin du XIIe siècle qui opposa l'archevêque de Canterbury, Saint Thomas Becket, au roi plantagenet de l'époque qui était Henri II. Dans un tel conflit, fait remarquer McIntyre, l'opposition est violente, elle va conduire, vous le savez, à la mort de Thomas Becket comme martyr. Mais ceux qui s'affrontent sont d'accord sur le cadre idéal, le cadre moral qui les porte. Lorsque il a provoqué l'assassinat de Saint Thomas Becket dans sa cathédrale, Henri II fait pénitence, il jeûne, et un an après, enfin, sa pénitence dure un an, et après on le reçoit dans la cathédrale de Canterbury où il est flagellé par les moines avant d'être réconcilié avec l'Église. C'est dire que à cette époque, tout en tension, tout en conflit, il y a un accord sur les rôles et les devoirs de chacun. Et le mal est reconnu, il est reconnu et il est expié. À l'époque moderne, un autre conflit, celui qui oppose Henri VIII et un autre martyr, Thomas More, aboutit aussi à la disparition de l'un voulu par l'autre, au martyr de Thomas More commandé par le roi, mais il y a divergence d'interprétation sur le sens de l'histoire, sur le rôle de chacun. McIntyre dit que au XVIe siècle, donc à l'époque d'Henri VIII et de Thomas More, les sujets n'habitent plus le même récit, n'ont plus la même interprétation de l'histoire. Ils n'habitent plus comme leurs ancêtres la même structure narrative, dira McIntyre, c'est-à-dire que par rapport à une certaine conception de la communauté, des rôles dans la communauté s'énonce une structure narrative dans laquelle vient s'inscrire les récits qui sont ceux des existences singulières. Bien, il y a une structure narrative commune pour, disons, le Moyen Âge qui disparaît à l'époque moderne. On n'interprète plus de la même manière l'histoire, on ne l'évalue plus de la même manière et on n'est plus les oppositions ne s'inscrivent plus dans un accord fondamental, ce qui était encore le cas au XIIe siècle ou au XIIIe à l'époque de saint Thomas. Alors disons quelque chose de ce cadre moral commun aux hommes du Moyen Âge, avant l'époque moderne, et le rapport qu'il entretient avec Aristote. D'emblée, on doit souligner une différence essentielle. Selon Aristote, l'homme bon ne peut pas être l'ami d'un homme mauvais. Et nous comprenons aisément pourquoi, puisque le lien d'amitié, je l'ai rappelé au début de l'entretien, c'est un lien qui repose sur une allégeance partagée envers un bien commun. À cela s'oppose l'amour du pécheur qui est prôné en christianisme. Amour du pécheur qui est un acte procédant de la vertu de charité. Chez Aristote, la communauté était constituée par le projet partagé de parvenir à un bien commun. Et la société se devait de sanctionner, de punir ceux qui altéraient le lien communautaire, ceux qui mettaient en péril le bien commun. Le christianisme introduit une autre réaction possible à l'infraction, qui est celle du pardon. La communauté humaine est devenue désormais une communauté de réconciliation, qui est dotée d'une histoire particulière, une histoire particulière dont nous savons qu'elle est centrée sur la croix. Si toute vie humaine incarne un type de structure narrative, alors on constate qu'au Moyen Âge, la structure narrative dans laquelle viennent s'inscrire les existences particulières et leurs récits est devenue récit de voyage, récit de quête. Et cela est très différent de la conception de l'existence qui était celle d'Aristote, car chez lui, le télos, ce à quoi aspire la communauté tout entière et chacun de ses membres, est un type de vie présente. Ce n'est pas ce à quoi, vers quoi je me dirige dans l'avenir. Bien sûr, il y a une apogée dans la vie bonne, selon Aristote, qui est la contemplation des réalités divines. Mais ce télos, ce but, cette finalité, n'est pas à venir. Il réside dans la façon dont la vie est menée, construite présentement. Ce qui signifie que la perspective d'une rédemption finale d'une vie qui était presque entièrement mauvaise n'a aucun sens pour Aristote. Autrement dit, c'est la raison du titre que j'ai donné à l'entretien, l'histoire du bon larron est incompréhensible, inintelligible, impossible. Par ailleurs, chez Aristote, l'être mauvais, vicieux, est un être qui a échoué à être vertueux. Le vice est conçu comme un échec. Ce qui n'est pas pensé ou à peine suggéré chez Aristote, dit MacIntyre, c'est le consentement de la volonté humaine au mal lui-même, réalité affrontée par Augustin lorsqu'il réfléchit au péché, lorsqu'il développe sa doctrine du péché originel en particulier. Chez Aristote, le bien humain peut être contrecarré par un malheur extérieur. Il n'y a pas de vie réussie et donc de vie heureuse et vertueuse qui soit compatible avec la laideur, la basse naissance ou une catastrophe existentielle comme celle que doivent affronter certains héros d'Homère. Alors que dans le christianisme, nous ne sommes exclus du bonheur par aucun de ces maux, si tant est que nous n'en devenions pas complices, si tant est que nous ne devenons pas complices du mal. Enfin, les maux que j'ai énumérés, bien sûr, en tout cas pour la laideur ou la basse naissance, ne sont pas des mal moral, hein, mais ce sont des malheurs qui sont incompatibles avec la vie réussie que l'éthique d'Aristote veut réaliser, alors que dans le christianisme, celui qui n'est pas complice du mal, car cela est possible, hein, celui qui n'est pas pécheur, en ce sens-là, n'est pas exclu de la recherche du bonheur, de la quête du bonheur et de l'accès final au bonheur. D'où l'importance de la dimension historique dans une morale chrétienne où aller vers le bien, c'est toujours se déplacer dans le temps et pas simplement monter dans la perfection d'être qui culmine dans la vie du philosophe contemplant les réalités divines, comme je l'ai déjà répété chez Aristote. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, vous avez vu que l'importance d'Aristote dans la culture médiévale, en ce que elle s'est efforcée de penser comment un chrétien pouvait être un bon citoyen, et par ailleurs, le dépassement de la morale aristotélicienne commandée par la foi évangélique.
Pour Aristote, il n'y a pas de degré dans Pour les stoïciens, il n'y a pas de degré où on est vertueux, donc on est heureux, ou on n'est pas vertueux, donc on est malheureux. Et pour Aristote, est-ce qu'il n'y a pas un degré, enfin, différents stades de bonheur, la vertu qui nous donne la. Grand bonheur parce que ça permet d'aller de vivre d'amitié pour le bien commun, et puis ce bonheur peut être terni par la laideur ou la basse naissance. Enfin, la laideur, disons, puisque la basse naissance n'ouvre pas chez Aristote à la possibilité de l'amitié, mais par exemple, la laideur, c'est un. Voilà. C'est un degré moindre qui n'est pas.
Oui, merci beaucoup.
Le bonheur parfait n'existe pas.
Merci de me dire. Ce que vous dites, nuance de façon très pertinente, je pense, ce que j'ai rapporté à partir de ma compte ailleurs. D'abord parce qu'il y a bien sûr une progressivité enfin, chez Aristote. Et la vertu la vertu s'exerce. Hein, donc, parler de vertu, ça lui vient un certain itinéraire. Ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, quand vous parliez de la laideur, je pensais qu'il y a au moins un homme laid dont Aristote aurait dit qu'il était vertueux, c'était Socrate. Hein, c'est l'exemple même de Socrate. Donc il faut relativiser ce que j'ai dit, mais ce qu'on peut quand même retenir, c'est que comment dire, la question des obstacles des obstacles extérieurs au bonheur de ses ennemis que sont les suppôts du mal sous toutes leurs formes. La question sans doute aussi d'une histoire des sociétés hein, telle que la pensera Augustin dans la Cité de Dieu à partir justement de ce grand conflit entre le bien et le mal. Alors, ça n'est pas penser dans un cadre aristotélicien, ça ne veut pas dire qu'Aristote ne donne pas d'excellents outils pour penser l'existence chrétienne, mais ça limite sa perspective. Et puis, ce que dit MacIntyre, c'est que la morale aristotélicienne étant une morale du bonheur, si le bonheur devient impossible, hein, si le malheur est tel qu'il ne peut pas être surmonté, alors il n'y a pas possibilité de rachat, de salut. Ce qui est bien présent dans le christianisme. Oui.
Est-ce que je peux poser une question?
Bien
Oui.
sûr.
Vous avez dit que c'était très éclairant, là, tout ce que disait MacIntyre sur la morale stoïcienne. Moi, en le lisant, je n'ai pas été impressionné à ce point-là. Il me semble qu'il y a des points de désaccord, par exemple, entre Aristote et le stoïcisme. Quand on lit saint Thomas, entre autres, on voit qu'il insiste beaucoup sur que pour les stoïciens, les passions, c'est une maladie, là. Puis que finalement, le rôle des vertus vis-à-vis des passions, c'est de les éliminer, alors qu'Aristote insiste que la passion, si elle n'est pas contraire à la raison, elle est bonne, elle est une énergie, qu'un homme vertueux n'est pas sans passion, le but n'est pas d'étouffer toutes ses passions. MacIntyre ne dit absolument rien de ça. Aussi, l'insistance sur les stoïciens dans le stoïcisme, on dit la vertu et non pas les vertus. Bon, je veux bien, là, mais mettons, on lit la vie heureuse de Sénèque. Ben, il parle de fait au singulier, le plus souvent, de la vertu, mais on trouve dans son texte des mentions de la justice, la libéralité, la munificence. Là, il parle de paroles courageuses. Il parle des vices au pluriel. Ça laisse entendre qu'il doit y avoir des vertus au pluriel qui leur sont contraires. Donc, je ne vois pas tant l'importance de dire, bon, comme s'il y avait un enjeu important là, de parler de vertu au pluriel plutôt qu'au singulier. Puis, tu sais, quand il fait un reproche à Aristote ou même à saint Thomas après d'avoir une nomenclature des vertus, d'avoir mis, dans le fond, de l'ordre là-dedans, moi, je lis ça, je me dis, ben, c'est quoi son problème, là? Je veux dire, il voudrait qu'on reste dans le désordre, c'est utile, c'est éclairant d'avoir ces nomenclatures, là. Moi, il y a beaucoup de choses qui me hérissent un peu, là, chez MacIntyre. Je comprends pas pour moi, il n'est pas vraiment un maître, là, à tout point de vue, là. Il y a beaucoup de choses contestables dans ce qu'il présente, là. Je sais pas
Oui.
comment vous réagissez à ça, là.
Je pense quand même que, bien sûr, il y a des qualités qu'on va pouvoir appeler vertus énoncées par Sénèque, mais il y a d'abord cette réalité fondamentale qui est la vertu et qu'on ne trouvera pas de façon de la même manière chez Aristote. Je pense quand même qu'on a deux cadres de pensée, de morale vraiment très, très, très différentes. Le stoïcisme, il peut être interprété de manière chrétienne, hein, c'est ce qu'ont fait les pères du désert, par exemple, hein, en comprenant l'apatheia comme la pureté de l'âme. C'est pas comme la destruction de la sensibilité, mais de tout ce qui vient la troubler étant de l'ordre du péché. Enfin, moi, je le trouve assez convaincant, quand même, MacIntyre, dans son opposition entre deux types de morale. On comprend pourquoi le stoïcisme pourra être plus facilement intégré si on fait de la loi cosmique, ben, si on pense à la loi cosmique comme étant celle de l'amour de charité. On suspend tout à la charité, ce qui nous détourne de la charité, ben, c'est de l'ordre de la passion, etc. Donc voilà, moi, je ne suis pas stoïcien, mais je pense que y a quand même là deux façons d'entrer dans la vie morale qui sont quand même, me semble-t-il, vraiment différent entre je pense qu'on peut quand même rapprocher plus facilement les stoïciens de Kant que d'Aristote, si vous voulez, hein. Même si
Oui.
Kant aussi va parler de vertu au pluriel, de qualité au pluriel, mais à partir quand même d'une vertu fondamentale. Voilà. Alors,
Et
on va voir comment ensuite MacIntyre va dire qu'on en est venu de façon très, beaucoup plus réductrice qu'à l'époque de Kant ou des stoïciens à parler de la vertu. Hein. La vertu, c'est ce qui va rendre l'homme parfaitement ajusté à ce qu'un certain type de société attend de lui. Mais ce n'est plus la société telle que Aristote la pensait, mais c'est plutôt le monde capitaliste avec les exigences de productivité et de consommation qu'il attend de ses membres. Alors, ça c'est une chose. Ensuite, vous disiez, quel est son problème par rapport aux nomenclatures? Je ne pense pas du tout que ce soit la nomenclature qui gêne MacIntyre. Lui-même proposer déjà, a commencé à proposer une interprétation de vertu fondamentale, hein, comme celle de la justice, de la sagesse pratique, de l'amitié. Il va repenser à sa manière, ça ne peut pas se convaincre, hein, je ne dis pas que c'est un grand maître, je ne peux pas le comparer à d'autres, mais il va repenser à sa manière les vertus cardinales. Hein. Donc lui aussi, il est pour une nomenclature. Ce qui le gêne chez saint Thomas, c'est le fait que le système devienne très détaillé, très déductif, c'est ce qu'il dit, hein, très, 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 très détaillé, très systématique, et puis c'est la question de la connexion des vertus. Hein. Vous avez vu avec l'exemple qu'il donne, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de vertus lorsque la charité n'est pas présente? Et MacIntyre dit, ce qui est gênant, quand on affirme qu'il n'y a pas de vertu à proprement parler, hein, sans la charité, c'est qu'on ne voit plus finalement à partir de quoi on va pouvoir saisir une existence. Alors, je donne l'exemple, hein, vous avez vu le texte du nazi qui se convertit. Enfin, bon, c'est à partir de ce qu'il y a malgré tout de vertu dans sa vie que je vais pouvoir le conduire à une vie moralement satisfaisante. Alors, je prétends pas que ce soit. Moi aussi, je suis un peu perplexe. Je pense que bon, les vertus, elles sont connexes dans la charité, pour Thomas. Hein, et ce qu'il dit finalement, c'est que s'il n'y a pas de charité, il n'y a pas vraiment de vertu. Mais s'il ne dit pas qu'il n'y a pas de qualité humaine et qu'on peut. Et donc, c'est vrai, je ne comprends pas très bien l'objection qui est celle de MacIntyre. Et même, on pourra, c'est un texte récent comme celui d'Amoris Laetitia du pape François y insiste, s'appuyer sur Thomas pour dire que même une personne qui échoue dans certains, comment dire, dans certaines. Dans certaines vertus, un homme qui n'arrive pas à être parfaitement tempérant, etc., ou n'arrive même pas à être tempérant, etc., eh bien, il y a des passages dans la Somme qui nous montrent qu'on peut posséder la vertu à titre d'habitude sans pouvoir en produire les actes en raison de certaines circonstances extérieures, etc. Donc, quoi qu'on pense aussi de cet enseignement-là, ça veut dire que ce que Thomas dit de la connexion des vertus est plus fin que ce que j'en lis chez MacIntyre, hein, où il semble que, hors d'un homme qui réalise toutes les vertus, toutes ces vertus étant pensables de manière très, très logiquement unies les unes aux autres selon un cadre très précis, bon, y a pas de salut possible. Hein, ça me semble un petit peu caricatural, oui, dans la manière dont il présente. Ça, c'est vrai.
Mais passer comme sur la patience, là, ce que dit MacIntyre, c'est assez confus. Assez, quand on compare, là, à, je sais pas, la question 136, la secunda secundae, là, les distinctions très fines de saint Thomas, puis
Oui.
la place de la patience, puis pourquoi elle n'est pas une vertu cardinale principale, pourquoi les vertus
Oui.
théologales l'emportent, tout ça, théologique, là,
Oui, mais
pourquoi. Voilà.
je pense qu'effectivement, il entend, alors moi je n'ai pas relu le texte de Thomas, mais il entend patience au sens de le fait de souffrir souffrir le mal, et même éventuellement souffrir le mal du péché. Là où il est en tout cas plus convaincant, c'est lorsqu'il parle de l'humilité. Il est clair que l'humilité, c'est difficilement intégrable dans la perspective d'Aristote. Mais je suis. Merci hein, de discuter le texte de McIntyre. J'espère que je montrerai l'intérêt qu'il a lorsque il met en lumière l'actualité d'Aristote et de Thomas d'Aquin dans les critiques qu'il émet à l'égard de... Alors, d'Aristote. Il y en a certaines qui me semblent quand même assez pertinente, on en a déjà parlé la dernière fois. Pour saint Thomas, on peut davantage discuter. Bon, en tout cas, on n'est pas obligé de le suivre, bien sûr. Hein. On a pour débattre, c'est bien. Merci.
En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme exagérées. Quand saint Thomas commente sur Aristote sur le bonheur, quand il écrit son traité des béatitudes dans la Somme, ben, on comprend qu'il y a un plan naturel humain, puis il y a un plan plus lié à la révélation chrétienne, à la perspective eschatologique et tout ça. Mais de parler constamment juste en termes de tension, d'opposition, ça me semble exagéré. Là. Je comprends qu'il y a une perspective qu'on n'a pas. Si on reste un païen, on n'est pas chrétien, on n'a pas la révélation. Mais même un chrétien, je veux dire, s'il y a eu des grands malheurs, si la basse naissance, la laideur, tout ça, ça va quand même affecter son bonheur. Puis on peut encore suivre Aristote là-dessus. Là. C'est pas parce qu'on devient chrétien que c'est seulement la vie éternelle qui nous intéresse, puis qu'on se fout de tout le reste, là, comme stoïcien
qui a rien dérange. C'est pas ce que dit McIntyre, quand même. C'est pas ce que dit McIntyre. Et la tension chez lui, elle n'est pas... Enfin, ce qu'il dit, et ce qui est quand même, je pense, assez évident, c'est que la béatitude, il y a une béatitude surnaturelle chez Thomas qui n'est pas envisageable dans le cadre d'Aristote, et que ça transfigure quand même la morale. Là, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord.
Peut-être voir s'il y a d'autres questions.
Oui, merci beaucoup de celles que vous avez posées.
Merci.
Il y a des questions dans la salle ? Ou à distance.
Moi, j'ai encore une question. J'essaie de poser une question. Si j'ai bien compris, McIntyre dirait que la vertu est pensée à partir d'un bien partagé par la communauté. C'est ça qui appelle la contribution de ses membres. Mais est-ce que Aristote ne pense pas la vertu à partir de la nature humaine?
Oui, mais c'est lié.
Oui.
Parce que la nature humaine, elle est pensée comme tendue vers le bonheur. Je pense que ce qui est. Ma façon de comprendre Aristote, hein, je crois qu'il. Il réfléchit à partir de l'expérience du vivant, hein, et la nature, c'est le principe même de la vie, c'est ce qui donne à la vie son élan et sa forme, d'une part. Donc c'est vrai que c'est un philosophe de la nature, hein, physique, hein, et c'est tout à fait essentiel chez lui, mais dans la partie morale de son œuvre, la considération première est celle de la béatitude et du bonheur. Hein, c'est la cause des causes en morale. Mais les deux, la considération de la nature et la considération du bonheur, sont étroitement unies l'une à l'autre parce que la nature est aspiration au bonheur. Oui, Dominique, alors, je ne sais pas quelle est la difficulté à partir de là quand vous opposiez un peu nature et bonheur.
Il y a ce qu'il est, un côté disparaît.
De fait, quand la communauté politique disparaît, il n'y a plus possibilité, je dirais, de vie vertueuse. J'ai passé un peu vite sur le passage où Martin Taylor disait qu'effectivement, le chrétien, lui, vit toujours dans deux cités, hein, la cité politique, mais aussi cette cité qu'est l'Église. Euh, et, et, ça, ce qui fait que même lorsque la cité politique s'effondre, il appartient toujours à une autre cité, qui est la cité surnaturelle, où la pratique de la vertu est possible, parce que le bien commun, qui est la béatitude surnaturelle, elle est toujours accessible. Et je crois qu'effectivement, du point de vue pour Aristote, hors le cadre de la cité, ce qu'il appelle la vie vertueuse, ce qu'il conçoit comme la vie vertueuse, n'est pas possible.
Quand vous avez parlé quand vous avez parlé d'Abélard, vous avez dit que, selon Abélard, on peut suivre ou repousser les inclinations des vertus et des vices. Est-ce que saint Thomas ne fait pas exactement la même chose, hein, de Veritate, question 24, là, quand il parle du libre arbitre? Il admet ça?
Oui. Je pense que on ne peut pas opposer la perspective de... En tout cas, ce qu'Abélard, lui, a tendance à opposer, Thomas donne les moyens de le concilier. Je dirais oui. Il y a bien sûr, ce qui est quand même nouveau dans la perspective d'Abélard, si on le compare, et, par exemple, bien sûr, rapide et un peu cavalière, parce qu'on saute les siècles, hein, mais avec Aristote, c'est la conception même de la liberté. Hein, il y a quand même le christianisme, lorsqu'il donne à toute existence humaine un horizon divin, lorsqu'il fait de l'homme l'interlocuteur de Dieu, déjà par sa conscience, et puis aussi à la lumière de la foi, il donne à la liberté une force, une dimension qu'elle ne pouvait pas avoir dans la perspective qui était celle d'Aristote. Je pense donc que Abélard honore quelque chose qui est absent chez Aristote, mais qui n'est pas du tout absent chez Thomas, je suis d'accord. Même si je pense quand même que chez Thomas, il y a un certain équilibre où la sagesse et l'organisme des vertus a une grande place et on n'est pas dans un cadre volontariste. Et voilà, donc je ne sais pas si Thomas insiste beaucoup sur la possibilité qu'il y a pour tout être humain résister aux inclinations profondément enracinées qui sont les siennes. Hein. Quand il parle de la grâce, il lui arrive de dire que la moindre des grâces, elle permet de résister à toute forme de péché. Mais c'est un principe.
La grâce présuppose la nature. Et d'ailleurs, quand il dit qu'on peut aller... Un vicieux peut aller contre son inclination vicieuse, mais il va finir par tomber, ça se tôt ou tard, puis souvent, ça ne sera pas très long. Là. Donc, il sauve le libre arbitre, mais il ne nie pas la grande influence de nos inclinations. Là. Ouais. Oui. Mais parler de l'insistance, là, je ne sais pas, Abélard, mais sur la liberté comme ça, puis dire, bon, il n'y a plus la cité, donc il n'y a plus ce cadre de bien commun, ça peut donner une pente dangereuse, mais il me semble, je pense au maritain, le personnalisme. Là, moi, j'ai un disciple de Charles de Coninck, là, de la primauté du bien commun contre les personnalistes. Là. Je pense qu'il touchait des choses importantes, là, Charles de Coninck, là-dessus.
Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça pourrait nous retenir. On pourrait lire l'ouvrage sur le bien commun, c'est une idée. Ça pourrait nous retenir une année, ce serait très, très intéressant.
Oui, oui. Aussi, quand vous parliez le stoïcisme en lien avec les pères du désert, le concilier avec le christianisme, on trouve un son de cloche complètement opposé chez Pascal, hein, les entretiens avec M. Sassi. Oui. On voit qu'il donne une version du stoïcisme. On voit que si on prend tout ça, là, cette indifférence au malheur, tout ça, comme ça peut être une attitude extrêmement orgueilleuse. Là. ou l'espèce de sage stoïcien qui s'érige comme se donnant sa vertu, et finalement, il n'y a pas besoin d'un salut, il n'y a pas besoin de Dieu, et c'est très orgueilleux, finalement. Là. C'est comme anti-chrétien de ce point de vue-là.
Oui, c'est vrai. C'est une question d'interprétation hein, aussi, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit de ce que furent les sages stoïciens et de leur orgueil supposé ou pas, il y a des éléments de morale stoïcienne qui ont été intégrés chez les pères du désert. Voilà, donc ils ont interprété. Il y a quand même une force du stoïcisme, il y a quelque chose de vrai dans le stoïcisme. Mmh. Ça me fait toujours sourire parce que je me souviens d'un vieux frère il y a très longtemps qui me disait mais vous dites qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est donc faux. peut-être qu'on peut dire ça du stoïcisme, mais il y a quelque chose de vrai qu'il faut sans doute honorer.
Il y en a qui sont dans le tout ou rien.
C'est ça.
Encore une question, non? Personne n'a de questions?
Marie-Michel. De l'amitié, est-ce qu'il y a des éléments qui, sur lesquels peut s'appuyer la définition de la charité? La première base, enfin, il y a des éléments, voir le bien de l'autre.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous entendez au loin, là? Oui.
Oui, là aussi, la question est rapide, hein, parce qu'effectivement, on peut penser la charité à partir de ce qu'Aristote dit de l'amitié, hein, et on peut très bien penser la charité dans un cadre aristotélicien. Le bien commun de la cité surnaturelle, c'est celui de la connaissance et de l'amour d'un Dieu créateur et sauveur. Et donc l'amitié qui nous lie, elle est allégeance à ce bien commun tel que nous le révèle le Christ. Enfin, donc on peut dire des choses, voir des choses essentielles de la charité à l'aide de ce qu'Aristote nous apprend de l'amitié. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et pour penser le mystère de l'Église, pour penser le mystère de la communion des saints, en termes d'amitié. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là que vous posiez votre question. Alors, là où McIntyre, lui, je trouve que c'est assez fort, même s'il faut que ce soit complété, quand il dit que ce qui est nouveau dans le christianisme, c'est le pardon, qui fait de la communauté chrétienne une communauté de la réconciliation. Et la vertu du pardon, c'est la charité. Alors, on n'a pas tout dit de la charité de cette manière-là, mais il y a une forme d'amour qui est révélée par le Christ qui donne à l'Église comme communauté, un visage tout à fait original. Et parler d'Église en termes de communauté de réconciliation, c'est en vivant en son sein la réconciliation et puis servant la réconciliation, l'œuvre de la réconciliation et donc de la paix dans le monde à partir de la croix, et penser l'amour de charité comme découlant du mystère de la croix, du pardon donné par Jésus sur la croix. Ça me semble quand même très, très juste. Il ne dit pas tout, mais il dit des choses fortes et qui sont tout à fait impensables sans la révélation. Et on touche chez Thomas, d'ailleurs, je pense qu'on a, chez ce lecteur et ce commentateur, cet admirateur, ce disciple d'Aristote qui est Thomas, on a quand même une grande... il a une façon très forte de marquer la distinction des ordres. Et le fait qu'il y a certaines vérités qui sont inaccessibles à la raison. Hein, ça, c'est très fortement remarqué chez Thomas aussi. Il intègre ce qui vient d'Aristote, mais il ne réduit jamais sa théologie à un simple commentaire d'Aristote.
sur la, l'amour du pécheur là, qui deviendrait une amitié, j'ai un peu de difficulté avec ça. Je veux dire, dans le sens que la, l'amitié, c'est un amour réciproque. Il y a des choses, des valeurs à partager. Je veux dire, qu'il y ait une bienveillance venant de la charité envers quelqu'un, même un grand criminel et tout ça, mais ça ne deviendra jamais l'ami du saint qui a une bienveillance pour lui. Là.
C'est très éclairant, très juste ce que vous dites. Alors, McIntyre ne parle pas d'amitié, hein, il parle de l'amour du pécheur. Et je pense que, il dit que, donc, il y a d'abord un amour du pécheur quand il est pécheur, ce qui est très vrai, hein, c'est
ouais.
Évident.
Oui, mais il parle d'amitié aussi.
Il y a une amitié qui se noue avec le pécheur réconcilié, c'est-à-dire le pécheur qui se répand, qui vit dans la pénitence, alors il réintègre la communauté, et alors il y a une véritable amitié. Alors, vous allez dire, il n'est plus pécheur au sens propre du terme, je suis d'accord.
Mais il ne fait pas toutes les nuances que vous faites là.
Oui, il dit pas le contraire. Quand même. C'est-à-dire, il ne parle pas d'amitié avec le pécheur. Il parle d'amour du pécheur et il parle de la pénitence du pécheur qui le réintègre dans la communauté. Et donc, on peut parler quand même, même si son McIntyre ne le dit pas explicitement, mais ça découle assez immédiatement ce qu'il dit, d'une forme d'amitié, enfin, d'une réconciliation possible. La réconciliation, c'est un rétablissement d'amitié. Hein. Mais c'est vrai que le péché, enfin, voilà, mais ce que vous dites n'est pas dit par McIntyre et je trouve très éclairant, c'est-à-dire que, encore une fois, l'amitié avec le pécheur, même si dans l'évangile, bien sûr, ça dépend du sens qu'on donne au mot, on dit de Jésus qu'il est l'ami des pécheurs. Hein, mais c'est évidemment c'est pas au sens où il aurait la moindre connivence avec le péché, mais il aime les pécheurs et il les accompagne dans une œuvre de réconciliation. Et quand ils sont engagés dans l'œuvre de réconciliation, ils ne sont plus à proprement parler des pécheurs.
Ouais. Mais Lazare était l'ami de Jésus, mais ami des pécheurs au même sens. Le mot est analogue. Mais il reste que McIntyre, c'est dans le contexte de la notion d'amitié d'Aristote et en opposition à celle-là qu'il parle. Donc, ça suggère assez facilement ce que je vous disais.
Je voudrais relire le texte de McIntyre. Je trouve que ce que vous dites, en tout cas, est éclairant, mais voilà. Merci.
C'est bon.
On va peut-être arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres...
Juste pour peut-être terminer, il me semble que ce qui peut éclairer, c'est le fait que McIntyre se place, il me semble, hein, de ce que j'ai peut-être compris dans ce que vous dites, se place du point de vue de l'histoire, donc du point de vue d'un devenir. Et c'est fondamentalement ce qu'il oppose à, enfin, pour lui, ce qui lui semble opposé à Aristote. Et que comme il se situe dans une ligne de temps, il analyse tout. Enfin, dans le chapitre même sur Thomas et sur Abela, dans le rapport à l'idée que l'existence est un voyage, et donc est-ce qu'il y a un avant et un après, et que en fait chez Aristote la communauté est avant, donc ça engendre des tas de choses, ce qui permet d'être au présent, etc. Alors que au Moyen-Âge, et puis on peut dire c'est quand il parle de la période de tension, la communauté, elle est à construire. Et que donc, en fait, les deux circonstances, et il insiste, il me semble, sur ce qui est circonstances, sont différentes, on va se retrouver face à deux réactions différentes. Enfin, voilà, moi, c'était... Pour moi, l'idée, le fait que McIntyre insiste, enfin, il me semblait que c'était au début, sur l'histoire et sur le rôle de toute communauté, c'est ce qu'il veut penser en premier lieu, il me semble. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais voilà. Enfin, mais après, moi aussi, j'ai réagi en me disant, mais peut-être qu'il raccourcit un peu. Et c'est en pensant que c'était historique que j'ai essayé, enfin, ça me semblait plus clair. Voilà.
Oui, il simplifie sans doute les choses parce qu'il va vite, finalement.
Voilà, c'est ça. Mais c'est pas...
Mais c'est vrai que alors il faudrait réfléchir, et certains l'ont fait, hein, à une conception aristotélicienne de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on
Là,
ne peut pas en dire et qu'est-ce que ça
je
change?
ne peux pas dire oui.
Oui,
Ça change.
j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Pour Aristote, l'histoire, elle est cyclique. C'est l'éternel retour du même. Le christianisme va amener l'idée d'un progrès linéaire, mais avec un sens spirituel. Le monde moderne va complètement séculariser. Il va mettre surtout les idéologies marxistes, ou déjà chez Hegel et tout ça, il n'y aura plus du tout, on va être dans l'horizontalisme, il n'y aura plus du tout de dimension eschatologique, d'accomplissement dans l'au-delà. Dieu va disparaître de l'histoire. Mais il me semble que le Moyen Âge est entre les deux, là, et il n'y a plus une vision cyclique de l'histoire, il a une vision linéaire où il y a un progrès vers une parousie, vers quelque chose, mais qui est grâce à Dieu qui conduit l'histoire. Il me semble que McIntyre aurait dû parler un peu de ces choses-là. Et ce qu'il dit de l'histoire est un peu court, je trouve.
Oui. Il ne peut pas tout dire.
Non,
Oui,
non, c'est
voilà, c'est
sûr,
ça. Et
mais.
je ne dis pas tout. On ne dit pas
On
tout
ne peut pas.
de lui. Voilà. Mais ce que vous dites est important et tout à fait vrai.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à
Merci,
vous tous
Pierre.
et un
C'était tout à
moment,
fait éclairant.
on va arrêter là. Et merci d'avoir été fidèle pour un certain, pour vous, là, qui êtes devant votre écran, au loin.
Merci beaucoup, c'est très intéressant.